France Info.
Au nord de la Loire, hein, de façon générale, avec des rafales de 100 à 150. 150, c'est plutôt sur les côtes. Cette tempête va générer de fortes vagues également en fin de journée. Le département le plus touché pourrait être l'Ille-et-Vilaine au moment de la pleine mer. Alors, c'est ce soir, autour de 23h, l'Ille-et-Vilaine, on trouve Cancale, on trouve Saint-Malo, si je ne me trompe pas.
Hein. Oui, je crois c'est bien. Je crois bien. Merci pour cette révision de géographie.
C'est pas terrible,
oui, c'est pas tout ça à fait mon coin, mais ça va, je maîtrise ma géographie. Merci beaucoup, Christine Peignan. On vous retrouve tout au long de cette matinale. Et merci à tous d'écouter France Info de si bonne heure. Il est 5h. Et à la une donc ce matin, cette dizaine de tracteurs d'agriculteurs en colère qui sont arrivés cette nuit sous la tour Eiffel. D'autres sont aux portes de la capitale. Dans l'actualité également, on en parlait, la neige et le verglas qui sont toujours là et la tempête qui arrive sur la façade nord-ouest du pays. Des conservateurs dans notre alimentation soupçonnés de causer des cancers et du diabète selon deux nouvelles études françaises. Et puis OM PSG au Koweït pour le trophée des champions ce soir. Ils montrent leur colère depuis des mois contre le projet de traité de libre-échange avec le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud, un traité qui pourrait être signé formellement dans les prochains jours. Contre aussi les abattages de troupeaux de bovins touchés par la dermatose nodulaire. Bonjour Mélodie Pépin.
Bonjour.
Ce matin, une image qui frappe, donc des agriculteurs de la coordination rurale sont au pied de la tour Eiffel depuis le milieu de la nuit.
Oui, ils sont 10 tracteurs positionnés juste devant la tour Eiffel. L'image est symbolique.
Oui, au pied de la tour Eiffel, devant les vitres de la tour Eiffel.
Des agriculteurs de la coordination rurale de Gironde et de l'Essonne. Ils sont arrivés sans forcer aucun barrage, nous raconte Ludovic Duclou, coprésident de la CR33.
Un super copilote, il y avait Waze, on avait tous les barrages indiqués de gendarmes, donc on les a tous contournés. On est parti en petit groupe. Nous, on a été menés à aller à Port-Chantilly et de là, il n'y avait pas de gendarmes et bien on a dit on va à la Tour Eiffel. Et c'est passé.
Un petit groupe parti à 2h du matin depuis une ferme de la région parisienne en Essonne où ils avaient caché les tracteurs dans un bâtiment fermé à clé. Ils espèrent maintenant l'arrivée de renforts dans une ambiance calme face aux gendarmes et CRS présents.
Calme, détendu, on n'est pas là pour casser, on le répète encore une fois de plus. Notre président national l'a dit, on voulait venir pacifiste qui n'a pas été autorisé et nous y arrivons quand même.
Et un autre convoi réussi à passer pour rejoindre la porte d'Auteuil. Une cinquantaine d'agriculteurs, une quinzaine de tracteurs sur place bloquent un accès au périphérique. Des agriculteurs déterminés aux revendications nombreuses et connues, on l'a dit, la dermatose nodulaire, les prix élevés, des engrais aussi, les normes, la menace de la concurrence des pays d'Amérique du Sud avec l'accord du Mercosur. Ils le répètent, ils sont prêts à maintenir la pression sur Paris.
Merci beaucoup Mélodie Pépin pour ces précisions en direct à 5h03 sur France Info. Encore une dizaine de départements en alerte orange à la neige et au verglas. Il s'agit de la Corrèze, de la Haute-Vienne, du Cantal ou encore de l'Aveyron, rejoint aujourd'hui par le Vaucluse et les Deux-Savoies. Et puis quatre autres départements au bord de la Manche s'inquiètent pour les vents à partir de ce soir et cette tempête Goretti avec des rafales jusqu'à 140 km/h. Un avis de tempête sur la Manche, donc à laisser dans le Cotentin. On se prépare, Stéphanie Maubé est la maire de la commune.
On n'a pas grand-chose à faire en vraie préparation, mais ce qu'on fait, c'est que nos services techniques préparent toutes leurs tronçonneuses pour qu'en cas de chute d'arbres sur une route ou sur un chemin, ils puissent intervenir assez facilement. Donc c'est ce qu'on va faire à l'annonce de la tempête de la fin de semaine. Je pense que le dernier sujet de préoccupation, c'est les trucs qui volent, c'est-à-dire les poubelles des habitants qui ne devraient pas être sorties ce jour-là. Mais bon, on n'est pas dans une saison où il y a encore des tables de jardin ou des trampolines partout, donc on ne devrait pas avoir trop de mobilier qui vole.
Et la circulation des trains d'ailleurs sera suspendue à partir de ce soir en Normandie face à cet épisode météo. La Maison-Blanche compte toujours s'emparer du Groenland, mais le ton s'adoucit un peu ces dernières heures. Donald Trump dit étudier la piste d'un rachat pour rattacher le territoire du Grand Nord qui appartient au Danemark. Ces derniers jours, il disait ne pas exclure l'usage de la force. Qu'en pensent les principaux concernés, les Groenlandais? Vous en avez rencontré à Copenhague, à Gérard Mohamed, à la Maison du Groenland.
C'est un lieu où la communauté aime se retrouver pour boire un café, papoter, tricoter ensemble. Sur les murs, des œuvres de peintres inuits sont accrochées. La radio, elle, est branchée sur une station groenlandaise. Je viens car ici, je peux parler en groenlandais. Lina a quitté le Groenland à l'âge de 6 ans.
Mes derniers ancêtres à avoir vécu dans la culture inuite, ce sont mes arrière-grands-parents il y a presque 100 ans. Mais on nous l'a retiré et si on l'affichait, c'était interdit, on pouvait être poursuivi.
Alors aujourd'hui, elle refuse de soutenir le gouvernement danois face au président américain.
J'estime que les relations entre le Danemark et le Groenland sont devenues toxiques et qu'il faut divorcer quoi qu'il arrive et le plus plutôt sera le mieux. Que l'on soit maltraité par le Danemark, les États-Unis ou une autre nation, c'est pareil.
Militant pour un Groenland indépendant, Knud, lui, refuse de vendre sa terre natale aux Américains. Mais pourquoi pas négocier avec eux ?
Le Groenland s'appauvrit un peu plus chaque année, alors que nos sols regorgent de ressources. Seule l'Union européenne et le Danemark en profitent, mais pas les Groenlandais. Le Danemark ne nous autorise pas à discuter avec les autres, seulement avec les Européens.
Nous n'avons jamais eu notre mot à dire, conclut Knud. Alors pourquoi ce serait le cas aujourd'hui ?
Agira Mohamed au Danemark pour France Info. Les conservateurs dans nos assiettes causent-ils des cancers ? Pour l'heure, pas de lien prouvé, mais désormais de forts soupçons. Deux études françaises montrent que ces conservateurs sont associés à la survenue de cancers, mais aussi de diabète de type 2, Solène Lehen. Et les chercheurs, pour arriver à cette conclusion, se sont aidés d'une cohorte Nutrinet Santé, cohorte de 180 000 Français qui détaille régulièrement ce qu'ils boivent et ce qu'ils mangent.
Pour la première fois, les chercheurs montrent un lien entre six conservateurs alimentaires, les nitrites, le métasulfite de potassium ou encore l'acide acétique, et le risque de développer un cancer, notamment un cancer du sein. Ces additifs, ajoutés pour conserver plus longtemps les aliments, on les retrouve dans le jambon, les plats préparés à base de légumes, l'alcool, les céréales ou encore les sauces et vinaigrettes toutes prêtes. Ce n'est pas tout. Les scientifiques montrent aussi un lien entre 12 conservateurs ou antioxydants et l'apparition de diabète de type 2. Et il n'y a pas besoin d'être dans l'excès, explique Mathilde Touvier de l'INSERM qui a mené ces recherches.
C'est des consommations qui ne sont pas aberrantes au sens où ce n'est pas des gens qui vont boire 3 litres de soda par jour ou consommer 1 kilo de jambon, je ne sais pas, par jour. C'est des consommations qu'on peut atteindre dans une alimentation classique. L'important, c'est le côté répété tous les jours.
Et oui, parce que ces additifs, il y en a partout dans nos aliments. Alors les chercheurs espèrent que ces nouvelles données permettront de réglementer davantage l'usage des conservateurs alimentaires par les industriels.
Merci Solène Lehen du football ce soir avec le trophée des champions. Ce sera un classique hein, d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain, champion de France en titre et vainqueur de la Coupe de France, affronte l'Olympique de Marseille, son dauphin la saison passée. Ce ne sera pas dans l'Hexagone, non. Rencontre au Koweït, l'état du Golfe qui a investi 3,5 millions d'euros pour s'offrir cette affiche, Xavier Monferrand, et montrer qu'il est un acteur émergent du football mondial.
Au milieu des vendeurs de dattes et des effluves de cardamome qui s'échappent des cafés d'Al Moubarakia, le vieux souk de Koweït City, les maillots de football, eux, se font discrets, mais on trouve quand même celui du PSG.
Moi, je vends le maillot de Dembélé. Il plaît bien. C'est un bon joueur. Tout le monde aime le foot ici.
Difficile tout de même de mesurer l'engouement du Koweït pour le football. Ça ne saute pas aux yeux pour Ossam, venu de Vitrolles, qui fait le tour du monde arabe avec femmes et enfants.
J'ai pas l'impression que c'est trop foot ici. Je sais qu'ils sont beaucoup dans les chevaux, les courses de chameaux. Juste, j'ai un ami koweïtien qui m'a envoyé l'affiche. L'OM ici, j'ai bugué, je pensais que c'était un fake news. C'est pas comme l'Arabie Saoudite, qu'eux sont fans vraiment. Mais sinon, ici, ils sont pas très foot.
Une rare publicité pour l'affiche du soir tourne sur les écrans en centre-ville. Pourtant, à en croire Ramesh, un Indien qui vit depuis 15 ans au Koweït, le football y est populaire.
Les gamins de mon immeuble sont de grands fans. Les locaux aiment le foot. Beaucoup d'enfants indiens jouent au football ici. Ils vont venir.
Et le stade Jaber Alamat sera bien rempli, à en croire la Ligue de football, malgré l'absence de supporters parisiens et marseillais. Plus de 50 000 billets ont été vendus.
Un reportage signé Xavier Monferrand au Koweït pour France Info. Et puis une cérémonie organisée ce matin à Jarnac, en Charente, la ville natale de François Mitterrand, où il a été enterré, l'ancien chef de l'État, à la tête de notre pays pendant 14 ans. S'est éteint il y a 30 ans, jour pour jour, le 8 janvier 1996. Que reste-t-il d'ailleurs du mitterrandisme ? France Info a posé la question à ceux qui ont été ses proches. On les entendra à 6h10, tout à l'heure. Christine Peña, c'est donc l'heure de votre météo. Qu'est-ce qui nous attend dans le ciel aujourd'hui ?
Eh bien, après la neige, c'est le vent, la tempête, effectivement, qui sévit sur une bonne moitié nord du pays. On attend des vents de 80 à 100 km/h jusqu'à 140 à 150 sur les côtes.
Et justement, on va en parler dans un instant. Merci beaucoup, Christine Peña.
France Info, 6h-9h.
Bonjour, c'est Jérôme Chapuis. Je vous retrouve tous les matins dès 6h avec toutes les équipes de France Info, nos chroniqueurs, l'édito politique, le décryptage éco, France Info Monde, nos invités, les enquêtes et reportages de la rédaction, toute l'actu qui vous concerne pour rester informé en toute confiance.
6h-9h, du lundi au jeudi, c'est Jérôme Chapuis sur France Info.
Le 15 mars prochain, vous serez appelé aux urnes. Et d'ici là, France Info se déplace dans les villes. Pour les municipales où les enjeux sont forts, nous serons à Perpignan, ville dirigée par le RN. Louis Alliot, menacé d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires. Rendez-vous dans 10 minutes. Mais d'abord, nous le disions, la neige qui laisse place à la pluie et à la tempête.
France Info. 5h-6h. William Gecosta.
Alors la neige et le verglas restent tout de même bien présents. 10 départements du centre et du sud-est sont en vigilance et 4 autres des départements normands, eux, sont en vigilance orange. Vent à partir de 18h tout à l'heure, le Calvados, l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime. En raison donc du vent, nous le disions, Guillaume Ferry est directeur des opérations pour Predict Service et il appelle donc à la plus grande prudence face à ces phénomènes météo de forte intensité.
Il va neiger abondamment, assez basse altitude, des 200 mètres à peu près, donc ça veut dire que jusqu'en fond de vallée, avec des valeurs importantes en montagne, mais dès le fond de vallée, on parle de 20 cm au moins. Donc il va falloir là aussi, bon, c'est des secteurs peut-être un peu plus habitués oui. que l'Île-de-France ou la Normandie de ces derniers jours, mais c'est quand même des quantités de neige notables et pour lesquelles il va falloir évidemment être, pour lesquelles il va falloir être prudent.
Je le disais, les vents violents arrivent. 4 départements des côtes de la Manche, tous en Normandie, en vigilance orange.
Oui, probablement d'autres. Météo France prévoit probablement de faire évoluer cette carte parce que la tempête arrive, tempête Goretti, qui est encore assez loin de nos termes et qui va évoluer ce qu'on appelle une bombe météorologique, qui va se creuser très très vite. C'est pour ça qu'on appelle cela une bombe. Elle se creuse très très vite en arrivant près des côtes bretonnes et elle va, là actuellement, elle est à un peu plus de 1010 hectopascales, donc c'est encore assez élevé, mais elle va arriver jusqu'à 970 hectopascales très probablement sur le Pas-de-Calais, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Et au passage, donc, concerné à aborder la France par longeant les côtes de la Manche, avec des vents très forts, avec des valeurs déjà annoncées à plus de 140, voire un peu plus le long des littoraux, et peut-être aussi des valeurs importantes dans les terres.
Pour ce qui est des 4 départements qui seront placés en vigilance orange-vent, on va les citer, il s'agit du Calvados, de l'Eure, de la Manche et de la Seine-Maritime. Vous en parliez de cette tempête Goretti, elle va vraiment amener des vents très très puissant.
Des vents à plus de 140 km/h près du littoral, notamment dans le Cotentin, où là on voit les modèles monter sur des valeurs très fortes, donc département de la Manche. Mais voilà, dans les terres également, on pourra avoir des valeurs jusqu'à 120 km/h très probablement. Mais la Bretagne sera également concernée dès la fin d'après-midi, et puis également dans la nuit, le système va glisser vers le Benelux et concerner également les
Belgique, Pays-Bas,
plus alerte vers la
et
voilà, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, mais au passage, bien sûr, concerné aussi les Hauts-de-France, qui pourraient être là aussi concernés. À noter également que ça va s'accompagner d'une mer très très forte, avec une surcôte marine importante et de fortes houles. Donc, les zones côtières vont être non seulement concernées par ces vents violents, mais également par une mer très agitée et dangereuse.
Et d'ailleurs, des messages des autorités sont déjà diffusés pour prévenir celles et ceux qui prendraient la mer dans les jours qui viennent ou même qui iraient se promener sur la plage, de faire très attention puisque le risque, il est important.
Absolument, oui, le risque est important. On a ces vents forts qui génèrent une houle très, très importante, jusqu'à 10 mètres, notamment sur la pointe du Finistère, mais qui engendre également, parce que le minimum dépressionnaire va rentrer dans la Manche, va générer une surcôte, c'est-à-dire que la pression génère une élévation du niveau marin avec des endroits, par certains endroits, des élévations de plus de 1 mètre, 1,50 mètre. Et quand ça se phase avec les pleines mers, ben forcément, ça génère des inondations côtières, des inondations dans les zones basses, des littoraux, et qui se conjuguent en plus à une mer agitée. Donc voilà, tout ça mis bout à bout peut générer sur les zones littorales des inondations associées à ces vents forts.
On voit déjà que des mesures sont prises. La circulation des trains, elle sera suspendue en Normandie. Le trafic TER, il sera interrompu dans les Hauts-de-France. Ça se justifie au vu du risque que présente cette tempête ?
Oui, totalement, parce que c'est des phénomènes avec les valeurs de vent qu'on évoque qui peuvent générer des chutes d'arbres, des chutes de lignes électriques, etc. Donc, effectivement, les mesures de précaution pour limiter le trafic, limiter ses déplacements. Malheureusement, les gens qui sont concernés par ces secteurs ont déjà été dû limiter leurs déplacements en raison de la neige. Mais là, il va falloir encore être très, très prudent parce que cette tempête s'annonce forte et vraiment la circulation dans les zones exposées s'avérera dangereuse. Donc il faut être prudent, suivre les consignes des autorités. Les maires vont déclencher des plans communaux de sauvegarde dans ces situations-là et suivre les consignes et recommandations qui sont transmises par soit les radios, par les maires, par les différentes autorités locales.
On parle du littoral de la Manche. L'intérieur des terres aussi va subir ces rafales de vent et notamment la région parisienne. On va avoir des valeurs assez élevées.
Oui, alors la région parisienne, pour l'instant, est un petit peu en marge des valeurs les plus fortes, qui vont vraiment concerner les départements les plus proches du littoral. Mais les dernières prévisions météorologiques, effectivement, montent un petit peu d'un cran là vers Paris, avec probablement des valeurs qui pourraient approcher les 90, voire un peu plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les départements entre l'Île-de-France et les littoraux de la Manche vont être très concernés, notamment l'Eure, on l'a vu, même le département Picard, un peu plus au nord, mais l'Eure, la Seine-Maritime, mais également, effectivement, les départements franciliens pourraient être eux aussi concernés.
Guillaume Ferry, le directeur des opérations de Predict Service, spécialisé dans les phénomènes météo, qui répondait à Marc Potvin sur France Info. Alors, on vient de l'entendre, la menace est donc forte ce soir sur la côte normande avec la tempête Goretti et ses rafales à près de 140 km/h prévues à Dieppe, en Seine-Maritime. La population et les autorités donc prennent les devants, Simon Monoury.
Sur la plage, le vent commence déjà à souffler.
Ça fait beaucoup là cette semaine.
Macha et Mathieu se baladent en bord de mer.
La neige, la tempête, normalement on attend de la pluie. On aura eu les quatre saisons là. Peut-être que ce week-end on va avoir beaucoup chaud. On va finir en t-shirt sur la plage.
Alain et Sylvie ont l'habitude de ces gros coups de vent. Ils connaissent bien le comportement à adopter.
On peut s'approcher par les vagues, mais bon, faut faire attention et rester à distance, quoi.
C'est la sagesse de notre âge. Faut pas aller se promener sur le front de mer parce que les galets peuvent être projetés par les vents, mais ça on le sait. Ton bondier poids le sait.
Au chaud, dans son restaurant, Arnaud compte anticiper.
Et là, on va ranger toute la terrasse complète pour pas avoir des chaises qui volent sur les routes. C'est tellement léger que ça vole. On range tout, on prévoit.
Justement, le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, a déjà pris des mesures.
C'est un phénomène qu'on observe malheureusement de plus en plus souvent. Bon, on s'y prépare en se mettant en veille, en fermant nos parcs publics, en rendant nos bois inaccessibles, en veillant à ce que tous les équipements publics soient bien fermés, mais en informant la population pour qu'elle rentre tout ce qui est à l'extérieur, que ça soit les poubelles ou le reste. Et puis on fait en sorte de faire face à ces événements météorologiques auxquels on est habitué sur les bords de mer. On a tout ce qu'il faut, on barrière, on met de la rubalise, on s'adapte très rapidement. Là, l'avantage, c'est qu'elle est annoncée par la météo depuis un moment.
C'est une semaine chargée pour les agents après l'épisode neigeux qui s'est abattu sur le département en début de semaine.
Les services, là, sont quand même fatigués parce qu'on sort d'une période de neige et de verglas qui a demandé aux astreintes de tourner très tard la nuit et très tôt le matin, même à Dieppe, même si on a été moins touché que d'autres territoires de Seine-Maritime, mais le service public et la ville vont faire face. Ouais.
La préfecture a organisé une réunion avec tous les acteurs de la force publique, comme l'explique André Gauthier, président du service d'incendie et de secours. Les sapeurs-pompiers se tiennent prêts.
De positionner, de pré-positionner en garde un certain nombre de centres d'incendie et de secours sur l'ensemble du territoire, de telle façon à ce que les sapeurs-pompiers puissent être directement opérationnels dans les casernes pour faire face à l'ensemble des événements qui pourraient subvenir.
Les fortes rafales de vent sont attendues pour la fin de journée.
Un reportage ici à Normandie signé Simon Monoury pour France Info. Les municipales approchent et justement nous entamons notre tour de France à l'approche de ce vote et nous sommes dans un instant dans une ville RN, Perpignan.
France Info, 5h-6h.
Bientôt 5h20, bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
C'est l'heure de l'info en une minute avec vous. Et à la une, cette mobilisation d'agriculteurs à Paris.
10 tracteurs sont devant la Tour Eiffel, une quarantaine porte d'Auteuil. Mobilisation à l'appel de la coordination rurale contre l'accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur. La préfecture de Paris interdit les rassemblements non déclarés autour des institutions politiques à Paris. La neige et le verglas continuent de s'inviter dans 10 départements français, de la Creuse à l'Aveyron, en Savoie. En Haute-Savoie et dans le Vaucluse. Et dans l'Ouest, c'est une tempête qui arrive. La Manche, le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime sont en vigilance orange au vent. Des rafales jusqu'à 140 km/h attendues sur le littoral. Donald Trump invoque la légitime défense. Un policier de l'immigration vient de tuer une femme à Minneapolis aux États-Unis. Il lui a tiré dessus alors qu'elle était au volant de sa voiture. Les autorités locales contestent la version du président en se basant sur des vidéos. La police fédérale de l'immigration mène une série d'opérations depuis mardi dans la ville. 2000 policiers sont mobilisés. Et puis on n'en a pas encore fini avec la grippe. L'épidémie reste soutenue et provoque une activité élevée dans les hôpitaux. Le pic atteint la semaine dernière n'est peut-être que provisoire, dit Santé publique France.
France Info, municipale 2026.
Les 70 000 électeurs de Perpignan veulent-ils maintenir le RN à la tête de leur mairie? Nous sommes dans le chef-lieu des Pyrénées-Orientales ce matin, à l'approche donc de ces municipales de mars. La ville est donc dirigée depuis près de 6 ans par Louis Alliot, le vice-président du parti à la flamme, menacé d'inéligibilité lors de son procès en appel à partir de la semaine prochaine dans l'affaire des assistants parlementaires. Alors Pierre-Yves Bonneau, vous êtes parti pour France Info à la rencontre des électeurs perpignanais.
Les ordures s'amoncellent devant des immeubles aux murs décrépits. C'est à la lisière de Saint-Jacques, quartier très populaire de Perpignan, que Michaël Hydrac a donné rendez-vous à ses colistiers pour distribuer des tracts. L'insoumis à la tête d'une liste d'union avec les écologistes pousse la porte d'un bar.
Moi c'est la France Insoumise, c'est l'ennemi du maire.
Où le propriétaire se plaint très vite du bilan de Louis Alliot.
Ah ouais, franchement, la ville est morte, il n'y a pas de transport, rien, regardez. Impression d'être dans une ville de vieux. Vous allez en Espagne, ça bouge plus qu'ici. Tous mes clients en moins vont en Espagne.
Le candidat LFI saisit la balle au bon.
Oui, les quartiers populaires sont abandonnés. Louis Alliot a flatté son électorat pour essayer de s'assurer une réélection, mais les quartiers populaires sont complètement abandonnés. Je dirais même, il n'y a que l'hypercentre qui est nettoyé, il n'y a que l'hypercentre qui est sécurisé, et dès qu'on s'éloigne un peu, il n'y a absolument plus rien.
Mais pour battre Louis Alliot, la gauche part divisée, comme dans la plupart des grandes villes. Trois listes à ce stade, dont celle menée par Agnès Langevin du parti de Raphaël Glucksmann. Place publique, la vice-présidente de la région Occitanie se présente.
Face au bilan de Louis Alliot, le maire d'extrême droite, on nous promettait Perpignan en grand, c'est Perpignan en faillite sur le plan de l'emploi, sur le plan social. Un enfant sur deux vit dans une famille qui est sous le seuil de pauvreté.
Tous les partis du bloc central se sont eux rangés derrière un candidat. Un éditeur, déjà dans l'opposition municipale, Bruno Nougued, qui appuie là où ça fait mal.
Il n'y a pas eu d'effet Alliot à Perpignan. On vous parle de sécurité, vous prenez les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont catastrophiques dans tout le domaine. Il a été élu sur la promesse de renverser la table, et je crois qu'aujourd'hui il est planqué sous la table du Rassemblement National à Paris. Il s'occupe clairement de ses affaires politiques, personnelles, judiciaires. Il y a quand même une question qui intéressera les Perpignanais, est-ce qu'ils veulent voter pour un maire qui risque une OQTP, une obligation de quitter le terrain politique quelques semaines après son élection?
Dans son vaste bureau du premier étage de l'hôtel de ville, le maire sortant, qui a recruté 40 policiers municipaux depuis 2020, répond aux attaques.
Il s'oppose pour s'opposer, mais il voit bien que le boulot y est fait. Sans la police municipale, la situation serait beaucoup plus critique. On est dans la rénovation urbaine, mais évidemment, on est aussi tributaire des moyens financiers qui sont ceux de la mairie. Et donc, on avance petit à petit.
Louis Alliot évacue le risque d'être définitivement déclaré inéligible dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN.
Dans tous les cas de figure, le conseil municipal se réunira et choisira au sein de la majorité la remplaçante ou le remplaçant.
Le vice-président du RN confiant, si les électeurs avaient tenu compte de cette affaire, je n'aurais jamais été élu il y a 5 ans.
France Info municipale a signé Pierrick Bonneau à Perpignan ce matin. Et puis une autre info de ces municipales à retenir ce matin. Une nouvelle candidature pour la mairie de Paris. Sarah Knafo, eurodéputée du parti Reconquête d'Éric Zemmour, l'élu d'extrême droite, l'a annoncé officiellement hier soir aux 20h de TF1. Il est 5h22 et c'est l'heure du monde d'Élodie. Et on voit la vie en rose ce matin.
Bonjour Rose.
Bonjour Élodie.
Ciao Bella.
Vous êtes autrice, compositrice, interprète, cet artiste qui nous a imposé sa liste en 2006 et qui a su nous présenter grâce à son titre Ciao Bella, son grand-père italien qui a quitté donc son pays natal pour devenir tailleur à Nice. Oui, la musique a toujours fait partie de vous. Votre prénom est d'ailleurs un clin d'œil à Janis Joplin et au film The Rose de Marc Riddell. Mais derrière vos chansons et votre sourire fort et déterminé se cache une artiste devenue femme qui a su combattre ses addictions et ses failles. Nous l'avez d'ailleurs raconté dans le livre et album Kérosène, c'était il y a 6 ans déjà. Depuis quelques mois, vous êtes de retour avec un livre, un spectacle et un album intitulé Rose Movie, soit 13 chansons que vous allez interpréter sur scène et un ouvrage qui vous raconte tel que vous voyez la vie aujourd'hui, avec encore une fois un besoin de sincérité, de justesse, semble-t-il, qui sont intrinsèquement liés à votre personnalité. Est-ce l'essence de votre écriture, Rose ?
Oui, en fait, un souci d'honnêteté constant, des fois qui me coûte cher. J'ai l'impression qu'il faut que je dise exactement ce que je suis et ce que je vis au moment où je le suis, au moment où je le vis. Qu'importe si demain je serai quelqu'un d'autre, il va falloir que je le redise encore.
C'est ça la force de l'écriture, justement, Rose. En tout cas, c'est ça le pouvoir de l'écriture sur vous.
Oui, le fameux moment présent, c'est-à-dire qu'on peut pas tricher, quoi. Pour moi, quand j'écris aujourd'hui, maintenant, ou quand je parle maintenant, je suis exactement celle que je suis maintenant. mais
jamais triste.
Un bonheur.
Cette annonce de cancer du sein, vous l'avez vécue, c'était en 2021.
Oui.
Vous êtes rendue quasiment seule à divers rendez-vous. Oui. Vous avez une force intérieure assez forte, il y a une dualité chez vous, Rose. Dans l'écriture, vous vous sentez fragile et vous avez cette fragilité. Et en même temps, dans la vie, vous avez toujours affronté les choses comme un coup de tête, finalement, que vous avez eu besoin de donner à ces mauvaises annonces, à ces coups du sort.
Mais il y a aussi une inconscience. Je me rends compte que j'ai plus peur de choses administratives que d'un... Enfin, j'avais plus peur de tout ce que j'avais à devoir faire de charge mentale avec ce cancer que le cancer lui-même. Donc, je me rends bien compte que je me dissocie des choses qui sont trop souffrantes. Et peut-être c'est ça aussi qui fait ma force, c'est-à-dire que j'y vais tête baissée parce que j'ai pas peur. J'ai peur de rien. En revanche, j'ai du mal à faire des choses que les gens normaux, entre guillemets, arrivent à faire.
Donc là, vous avez cette envie, effectivement, et ce droit d'être heureuse. C'est quoi être heureux, Rose ?
Déjà, c'est ne pas souffrir. Pour moi, c'est très bouddhiste comme conception, mais l'absence de souffrance, pour moi, c'est le bonheur. Quand on a vraiment beaucoup souffert comme j'ai souffert, et pas à cause du cancer ou des addictions, c'est vraiment la santé mentale, d'avoir envie de mourir. Cette envie de mourir que j'avais s'est transformée en envie de vivre. Maintenant, ça peut être très difficile. On peut être en joie à l'intérieur en traversant des moments difficiles. Je pense que c'est possible.
On sent que vous avez posé les armes. Hein,
complètement. Rose. Mais parce que je sais que ça ne sert à rien. C'est vraiment par lâcheté aussi. J'en ai marre, en fait, de me battre. Et c'est très fatigant. On s'épuise contre des événements, des choses contre lesquelles on ne peut rien. Mon fils, il est aussi présent là-dedans parce que le mot flemme, je l'utilise tout le temps. C'est-à-dire, quand je vois la fin de l'histoire, je vois pourquoi je suis en train de m'inquiéter, pourquoi je suis en train de lutter. Flemme. Vie plutôt, arrête de ruminer, quoi.
Dans cet album, vous avez réécrit une liste. Cette fois, elle n'est pas adressée à quelqu'un d'autre. Elle vous est adressée à vous-même. C'est ça qui a changé. C'est le fait de vous dire, je vais enfin vivre pour moi.
Ça a l'air égoïste comme ça. C'est aussi le fait d'être bien avec soi pour pouvoir être bien avec les autres. C'est ça le principe. Parce que c'est pour vivre en ermite. Moi, je peux y arriver, hein. C'est vrai qu'on est en colère contre personne quand on est tout seul, hein. Moi, j'ai du mal à vivre avec les autres. J'ai du mal à accepter les autres. C'est ça ma plus grande difficulté aujourd'hui.
Vous êtes une survivante, qu'on se le dise. La dernière fois qu'on s'est vus, en sortant de l'interview, vous avez reçu un texto où vous m'avez montré votre téléphone en me disant que certains arrivaient encore à vous contacter pour vous proposer certaines substances. C'est très difficile de sortir de ça. Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réussi à affronter ça ?
J'ai compris en tout cas que c'était jalonné de rechutes. J'ai arrêté de penser que c'était des échecs, ça c'est sûr. Mais c'est de plus en plus facile, plus on s'éloigne de la dernière conso, c'est-à-dire pour moi c'est tellement loin qu'aujourd'hui, quand l'envie me vient, j'ai un panel de d'autres solutions immédiates qui arrivent et surtout il y a ce mot « flemme ». Je vois la fin de l'histoire, je ne veux pas être à demain en train de consommer, en train d'avoir envie de mourir. Mais j'ai encore des textos de dealers, c'est un truc de fou, ils se refilent les...
C'est important de le préciser,
ah
ça,
oui,
parce
oui,
qu'on a l'impression
harcelé.
Que c'est facile de s'en sortir et
mais
pas du
est,
tout.
On est tout autant harcelé par les scrolls et les vidéos, et pour moi l'addiction est partout, c'est pour ça que ça me passionne. C'est-à-dire que ce vide, il est en nous, être humain, et qu'on a tous besoin de l'anesthésier, et on est tous addicts. Vraiment.
Il y a un texte qui est magnifique, c'est La Chute. Vous dites que c'est l'évidence qu'on s'est trompé de peau.
Mais de salle coup... et puis d'ambiance.
L'idée, c'est d'aller chercher la salle qui nous correspond et l'ambiance qui est de la créer soi-même.
Exactement. C'est exactement ça. Mais sans La Chute, c'est impossible.
Merci beaucoup, Rose, d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info. Merci. Un album, un livre et un spectacle. Il faut venir vous voir sur scène. Vous serez le 23 janvier à Montbrison, le 27 février à Carros, le 6 mars au Haillan, le 28 mars à Fontenay-le-Comte. Merci beaucoup, Rose.
Merci.
Au début de chaque chute, on a l'impression de voler. La chute, c'est l'âme qui tombe de haut, qui fracasse le silence, qui déchire la peau et le ciel dans tous les sens. C'est le vide qui
prend... La chanteuse Rose, dans le monde d'Élodie ce matin, à réécouter sur l'application Radio France.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure, dissuasion, détection, vérification et mise en fuite. Pour une protection complète jour et nuit, devis gratuit sur verissure.fr.
Christine Peignan surveille la tempête Goretti.
Mais oui, elle se faufile dans le couloir de la Manche, elle va déborder hein, sur toute une moitié nord du pays, donner des rafales de vent violentes le long des côtes surtout, mais sur la moitié nord, entre 80 et 100 km/h à l'intérieur du pays et jusqu'à 140, 150 d'ailleurs sur les côtes. Cette tempête va générer également de fortes vagues de 5-6 mètres de haut quand même, et surtout en fin de journée et la nuit prochaine, les départements touchés, ça va vraiment du Calvados à la Somme, et on aura certainement une vigilance orange sur ce littoral, mais une vigilance orange pour le vent également, qui sera mise en place là à 6h, on vous dira précisément exactement quels sont les départements, mais un bon paquet de départements du quart nord-ouest de la Bretagne jusqu'à l'Île-de-France certainement, voilà, et puis le fait marquant aussi, c'est ce redout, les régions de l'Est pourrait repasser en positif cet après-midi. 3 degrés à Strasbourg, certainement, comme à Nancy, 5 à Dijon, 7 à Paris, 11 à Marseille. Il fera 14 à Toulon, mais 15 pour Bayonne.
Merci beaucoup Christine Peña. Un pétrolier arraisonné par l'armée américaine dans l'Atlantique Nord avec un équipage russe. Doit-on craindre une escalade entre Washington et Moscou? Réponse d'un expert géopolitique dans 5 minutes. Et puis c'était il y a 30 ans, jour pour jour. François Mitterrand mourait. Que reste-t-il de son héritage? On se posera la question cette fois dans 20 minutes. Merci d'écouter France Info. Il est 5h30 et c'est l'heure d'un nouveau tour de l'actualité de ce 8 janvier.
France Info. William Guécosta.
Une dizaine de tracteurs sont au pied de la Tour Eiffel ce matin. C'est l'image de la nuit pour le mouvement de colère du monde paysan, action de la coordination rurale de Gironde qui dénonce entre autres l'abattage de troupeaux touchés par la dermatose nodulaire bovine, la signature aussi potentiellement imminente du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Bonjour Thibaut Delmarle.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la porte d'Auteuil où un convoi venu de Dordogne est donc arrivé aux portes de la capitale. Ils ont donc atteint leur but.
Oui, c'est ça. Ils sont partis d'un village entre Chartres et Dreux. Hier soir, à 23h, ils ont roulé une bonne partie de la nuit. Une fois en Île-de-France, ils ont traversé la forêt de Rambouillet où ils ont trouvé un premier barrage de gendarmerie, un camion qui était garé en travers de la route, mais ils ont pu l'éviter en passant à travers champs. Ensuite, plus rien jusqu'à Paris. Seule une voiture a bien essayé de les ralentir. Finalement, c'est elle qui a été encerclée par une voiture de police qui a été encerclée par ces agriculteurs. Les voilà donc porte d'Auteuil. Les CRS viennent également de les rejoindre, ces agriculteurs de la coordination rurale de Dordogne. Maintenant, la situation se tend. Les fourgons sont nez à nez avec les tracteurs. Les agriculteurs ont allumé les pleins phares et pour impressionner les CRS, ils font taper, vous savez, les lames à l'avant de leurs tracteurs par terre. Les paysans redoutent d'être délogés dans les prochaines minutes, mais ils l'ont dit, ils ne veulent pas bouger tant que le gouvernement n'accède pas à leur demande sur la dermatose nodulaire.
Merci beaucoup Thibaut Delmarle, d'ici Périgord en direct de la porte d'Auteuil, donc aux portes de Paris pour cette mobilisation agricole. À 5h31, revenons à cette météo toujours menaçante. Vigilance orange maintenue dans une dizaine de départements en raison du risque de neige et de verglas. Et puis évidemment, cette vigilance qui devrait être déclenchée en fin de journée pour la tempête Goretti dont nous parlons. Les Christine Peña avec des rafales attendues sur la façade nord-ouest du pays jusqu'à 140 km/h. Sur le littoral, donc, on scrute l'arrivée de cette tempête, Joanne Moison, pas seulement en Normandie, mais aussi en Bretagne. Vous êtes à Erquy, c'est au nord de Saint-Brieuc.
Oui, sur le port, dans le petit local de la station des sauveteurs en mer, le président de la SNSM, Jean Roussel, jette un œil sur les dernières prévisions météo.
Il y a une application qui annonce 71 nœuds en rafale sur le coup de 22h. C'est à marée haute en plus, donc ça peut être dangereux. Tout le monde va aller vérifier ses haussières, les amarres du bateau, aussi bien les pêcheurs que nous d'ailleurs.
Malgré les prévisions, les sauveteurs en mer ne sont pas trop inquiets ici.
Il faut surveiller les gens qui vont aller dehors si par hasard il y en a à y aller. Bien qu'à ce moment, au niveau des plaisanciers, il y en a très peu parce qu'on n'est pas en période de vacances d'une part. Puis d'autre part, les gens quand même sont plus prudents, ils respectent la météo. Et au niveau des pêcheurs, c'est un peu la même chose, dans la mesure où il n'y a pas de coquille Saint-Jacques en ce moment, la pêche est fermée. Donc il y aura quelques bateaux dehors peut-être qui vont au chalut, mais pendant les très gros coups de vent qui sont annoncés, les gens sont prudents et puis restent au port.
Avec des rafales annoncées proches des 200 km/h au milieu de la Manche, de nombreux navires vont venir s'abriter dans la baie de Saint-Brieuc.
C'est des bateaux qui sont dans le rail d'Ouessant, des cargos qui viennent vraiment se protéger, qui viennent se mettre à l'abri du vent entre Ploua et le Légué. Là.
On se souvient qu'en novembre 2024, un pétrolier qui était venu s'abriter en baie de Saint-Brieuc avait commencé à dériver vers la côte en raison d'une avarie. De gros moyens avaient été déployés en pleine nuit et en pleine tempête pour sécuriser le navire.
Un reportage ici Armorique, signé Joanne Moison pour France Info. Les locaux d'Orange à Marseille, à nouveau visés par des tirs d'armes à feu, des balles de gros calibre ont même traversé une salle de réunion. Le groupe de télécom avait été obligé un temps de fermer le site en raison de violences à répétition dans ce quartier miné par le trafic de drogue, site qui venait tout juste de rouvrir. Un nouveau recul des États-Unis dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donald Trump annonce le retrait de son pays d'une soixantaine d'agences mondiales. Sorti aussi du GIEC, ce groupe d'experts scientifiques des Nations Unies qui étudie l'évolution de notre climat et l'impact des humains. Les États-Unis, rappelons-le, avaient déjà quitté l'accord de Paris de réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de son premier mandat. Et puis la tour Montparnasse sera fermée au public, vidée de ses occupants à la fin mars pour lancer des travaux de rénovation. Le monument le plus détesté de Paris devrait perdre sa couleur un peu marronasse et devenir un poil plus transparent. Rénovation aussi du centre commercial déserté qui est au pied de la tour Montparnasse. Il est 5h34, merci d'écouter France Info.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Est-ce le début d'une escalade entre Washington et Moscou ou alors un épisode de friction sans trop de conséquences? Hier, un pétrolier a été arraisonné entre l'Islande et l'Écosse par l'armée américaine. Il est accusé de faire partie de la flotte fantôme qui transporte du pétrole vénézuélien. La Russie affirme que ce pétrolier bat son pavillon. Il n'a pas de pavillon, répondent les États-Unis qui ont donc arrêté l'équipage russe. Moscou réclame leur retour rapide. Alors comment interpréter ce nouvel événement? Frédéric Charillon est spécialiste des questions internationales et pour lui, cette affaire, elle ne devrait pas entraîner autre chose qu'une escalade verbale entre les Russes et les Américains.
Je pense qu'elle en restera au mot parce que on n'est pas très sûr que ce soit la Russie qui soit la première visée dans cette affaire, d'une part, c'est-à-dire que c'est un navire qui avait surtout des liens avec l'Iran. Ensuite, il y a beaucoup de communication de part et d'autre en ce moment et depuis, en fait, c'est une méthode qu'on a vue à plusieurs reprises à Moscou comme à Washington. On est un certain nombre à être assez surpris de la tournure pseudo, si je puis dire, américano-russe qu'aurait pris cette affaire, alors que de toute évidence, ce n'est pas forcément la Russie qui est visée en premier. La question que pose un certain nombre d'observateurs américains, c'est est-ce que ce n'est pas finalement une sorte de tentative de dispersion ou en tout cas de poudre aux yeux pour faire croire que quand même un jour de temps en temps Donald Trump fait quelque chose contre la Russie alors qu'il y a peut-être d'autres accords en jeu, en cours entre Washington et Moscou. Donc en fait on ne voit pas très bien pour le moment en quoi véritablement cette affaire nuit aux intérêts russes qui sont quand même centrés sur l'Ukraine aujourd'hui, pas sur le Venezuela. Russie ne va pas déclencher une nouvelle guerre froide parce qu'un navire a été arraisonné en disant « Ah mais au fait, c'était un navire qui nous appartenait ». Je ne le pense pas, non. Ça peut être quelque chose de parfaitement contrôlé par les deux capitales, à Washington et à Moscou, qui ne va pas dégénérer. Je ne pense pas, ou alors vraiment, enfin, il faut s'attendre à tout aujourd'hui, c'est vrai. Mais je n'imagine pas, si vous voulez, au milieu des autres enjeux géopolitiques majeurs du moment, c'est-à-dire la mainmise américaine sur le pétrole vénézuélien, d'une part, d'autre part, la situation ukrainienne aux yeux de Moscou, je n'imagine pas qu'un conflit éclate sur un pétrolier arraisonné avec quelques marins russes à bord. Voilà, c'est en tout cas un sujet qui est... Mais si jamais il s'agissait d'une opération un peu de communication, elle est réussie puisque toute la presse internationale focalise là-dessus aujourd'hui. Alors que, évidemment, aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est est-ce qu'il y a un plan américain pour le Venezuela? Est-ce qu'on est en pleine improvisation? Parce que quand M. Trump dit, bon, il a arrêté Maduro à la suite d'une opération militaire, c'est une chose, mais quand il dit nous allons gouverner le Venezuela, le pays, et nous allons surtout gouverner son pétrole et le saisir, et il affirme que toutes les décisions des autorités vénézuéliennes seront dictées par les États-Unis, on ne voit pas très bien dans quoi il s'est lancé, parce qu'on voit bien que déjà des milices favorables au régime sortant vénézuélien sont à l'œuvre dans les rues. Vénézuélienne. Est-ce que les États-Unis vont envoyer des troupes au sol pour arrêter ça? Probablement pas. Donc là, on est quand même dans une
beaucoup
sorte d'improvisation sur le terrain, peut-être un peu masquée ou maquillée, effectivement, par cette affaire du pétrolier. Et pour le moment, en tout cas, à très court terme, ça semble marcher, puisque beaucoup de médias se focalisent sur cette affaire. Le vrai problème, c'est dans quoi Donald Trump s'est-il lancé au Venezuela, avec le risque de provoquer dans toute l'Amérique latine une vague d'anti-américanisme, parce que ce qu'il vient de faire rappelle vraiment les heures les plus compliquées de la relation des États-Unis à l'Amérique latine, les années 50 à 70.
Frédéric Charillon, en tant que spécialiste des relations internationales, vous avez aussi un œil sur le Groenland. Les États-Unis veulent s'accaparer ce territoire semi-autonome du Danemark. On va écouter les précisions de Nathanaël Charbonnier et on vous retrouve juste après.
Pour l'instant, l'image des soldats américains prenant d'assaut le Groenland est plutôt à mettre de côté. Les images vues au Venezuela ne semblent pas s'adapter dans le Grand Nord. Ce qui est sûr, c'est que l'administration américaine n'envisagerait pas une opération militaire au sol. Personne ne semble y croire, et pas plus le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Il faut faire attention
tout en les prenant au sérieux, à ne pas surinterpréter certaines voix qui s'expriment, puisque moi-même, j'étais au téléphone avec le secrétaire d'État, le responsable de la diplomatie des États-Unis d'Amérique.
Marco Rubio. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit?
Qui a confirmé que ça n'était pas l'optique retenue par les États-Unis.
Alors, lui vous dit, on ne touchera pas au Groenland.
Il a écarté qu'on puisse imaginer que se produise au Groenland ce qui vient de se produire au Venezuela.
Et pour aller dans le sens du ministre, il faut ajouter qu'il serait étrange de voir les États-Unis, pays membre de l'OTAN, attaquer le Danemark, lui aussi membre de la même alliance de défense. Conséquence, dans les coulisses, on évoque plutôt d'autres pistes, comme celle de la transaction financière qui permettrait aux États-Unis d'aboutir à leur fin et de prendre possession du Groenland, comme le souhaite Donald Trump.
Et justement, la Maison-Blanche affirme ce soir que Donald Trump étudie activement un achat du Groenland. Frédéric Charillon, c'est une proposition sérieuse selon vous ?
Ah, oui, c'est possible parce qu'il a des obsessions, Donald Trump. De temps en temps, comme ça, il se focalise sur quelque chose. Alors ça ne va pas.
Ça fait déjà quelques mois, en l'occurrence, pour ce qui est du Groenland.
Le Groenland, c'est pas nouveau chez lui. Il le répète. Vous savez, il y a un côté obsessionnel chez cet homme. Bah, un jour, s'il veut le prix Nobel de la paix, sur le Venezuela, il a montré qu'il était sérieux. On n'y croyait pas non plus à une véritable intervention militaire. Il a quand même capturé un président en exercice, bon, qui n'est pas le plus populaire ni le meilleur, c'est certain. Mais et peu de gens vont le pleurer. Mais il l'a quand même fait. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il ne faut jamais écarter aucune hypothèse avec lui. Sur le Groenland, le simple fait qu'il y ait cette pression et ces mots extrêmement inamicaux de la part des États-Unis, sans même parler d'options militaires encore, mais même sans aller jusque-là, ce qui se passe actuellement est déjà énorme, si je puis me permettre l'expression. C'est-à-dire qu'on a quand même un allié qui fait partie d'une alliance de l'Atlantique Nord, qui est supposée aussi protéger ces pays européens, qui d'une part les traite en ennemis régulièrement, et surtout d'ailleurs le vice-président, qui ne s'en cache pas, qui ensuite envoie au Groenland un émissaire qui arrive en disant qu'il est là pour acquérir le Groenland au profit des États-Unis et qui ne s'en cache pas. Il y a quelques semaines, les Danois avaient dénoncé des manœuvres plutôt clandestines de l'ambassade américaine et au Danemark et au Groenland, qui allait aussi dans ce sens d'une sorte de campagne pour favoriser la mainmise américaine sur le Groenland. Tout cela, sans même parler d'une option militaire, est déjà totalement inédit et oui. Ce sont des actions extrêmement inamicales. Donc il faut de toute façon prendre acte de cette nouvelle donne.
Et pour ce qui est de l'option militaire, hein, la Maison-Blanche la remet sur la table ce soir. Le ministre français des Affaires étrangères semble considérer qu'une telle éventualité est improbable. Est-ce que pour vous aussi, c'est improbable que les États-Unis interviennent militairement pour prendre possession du Groenland ?
On ne sait plus ce qui est probable ou improbable avec Donald Trump parce que il agit par coup de publicité, en se mettant toujours au centre du jeu par obsession personnelle. Celui qui doit être très embêté quand même dans cette affaire, c'est le secrétaire d'État Marco Rubio, parce que Marco Rubio est un homme qui pense à la prochaine élection présidentielle, qui a un parcours atlantiste. C'est quelqu'un qui, dans toute sa carrière, a tenu fermement à l'OTAN. Ça n'est pas du tout lui un fan de Vladimir Poutine, dans son histoire personnelle. À Marco Rubio aujourd'hui, il est entraîné dans une aventure. Oui, il est obligé pour plaire à son patron et peut-être garder son poste, de se faire l'ennemi des Européens et de l'Alliance Atlantique, ce qui n'est pas son ADN au départ.
Donc, oui.
Il doit y avoir des discussions extrêmement sérieuses. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis sur cette affaire du Groenland, parce que même parmi les Républicains, il y a quand même des gens qui disent attention, ce sont nos alliés. On ne peut pas se fâcher avec tout le monde à la fois. On ne peut pas faire ressurgir l'anti-américanisme en Amérique latine et en Europe.
Frédéric Charillon, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que les États-Unis, membres de l'OTAN, s'en prennent à l'intégrité territoriale du Danemark, dont le Groenland est un territoire autonome ?
En tout cas, ils l'envisagent et ils le disent. Donc c'est déjà, il faut le prendre au sérieux. Il faut que les Européens arrêtent de refuser de voir des choses que des gens qui se comportent en adversaires nous disent directement au visage. Quand Monsieur Poutine nous dit un certain nombre de choses, on dit non mais il n'ira pas jusque là. Il nous le dit. Quand le président Trump agit et a des mots déjà très durs, des interventions dans les affaires européennes, et c'est une administration qui n'hésite pas à soutenir des partis d'opposition, à critiquer très violemment parfois des gouvernements élus qui sont au pouvoir. Je pense qu'à un moment, il faut que les Européens acceptent malheureusement cette donne et arrêtent de dire non, mais vous savez, c'est pas très grave, ils pensent pas ce qu'ils disent. Nous avons beaucoup de mal à accepter l'idée que non seulement les États-Unis ne sont pas sûrs de nous protéger encore, mais même sur un certain nombre de points, pratiquent des formes d'agression.
Frédéric Charillon, spécialiste des questions internationales, ancien directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui répondait au micro France Info de Marc Potvin.
France Info. 5h-6h.
Les règles changent pour les municipales qui arrivent dans les petites communes pour assurer la parité, mais parfois, vous allez l'entendre, ces règles sont parfois contre-productives. Le choix de France Info arrive après un nouveau tour complet de l'actu à 6h moins le quart avec vous, Maureen Suignard, et à la une. Après la neige, c'est une tempête qui va s'abattre sur le nord-ouest de la France.
La tempête Goretti qui arrive ce soir, la Manche, le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime sont en vigilance orange à cause des vents. Des rafales jusqu'à 140 km/h vont toucher le littoral. La circulation des trains sera suspendu en Normandie ce soir, perturbé en Bretagne et dans les Hauts-de-France demain. Par ailleurs, une vigilance orange est toujours en cours dans 10 départements. Une quinzaine de tracteurs de la coordination rurale se trouvent devant la Tour Eiffel à Paris. Des agriculteurs qui s'opposent à l'accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur. D'autres agriculteurs souhaitent converger vers la capitale pour manifester. En conséquence, l'A13 direction Paris est fermée au niveau de Boulogne. Un axe très important pour accéder à la capitale. Le parquet de Bordeaux ouvre une enquête. Des croix gammées ont été retrouvées sur la plaque d'entrée d'une association accueillant des femmes en difficulté. Le centre d'accueil et d'écoute Gisèle Halimi. Et puis un classique qui se déroule au Koweït. Le PSG et l'OM s'affrontent ce soir à 21h en finale du Trophée des Champions.
France Info, Municipal 2026.
Les municipales au cœur du choix de France Info. Ce matin, vous serez appelé à voter les 15 et 22 mars prochains. Et si vous vivez dans une petite commune, les règles du jeu vont changer. Déjà, vous ne pourrez plus rayer de noms sur les listes. C'est ce qu'on appelait le panachage, c'est fini. Et puis dans les villages de moins de 1000 habitants, il faudra respecter la parité. Bonjour Agathe Mahué.
Bonjour.
C'est parfois difficile dans les communes de Lyon que vous avez visitées.
Notre première étape, c'est un petit village près d'Auxerre, Chitry, 350 habitants.
Bonjour.
Ici, on fait du vin.
De la ligotée.
Lui, c'est monsieur le maire.
Je m'appelle Christian Boulet, je suis maire depuis 2020. Et au niveau de la parité, j'ai du mal à trouver les 50% de femmes. Pour l'instant, il m'en manquerait 3, j'en ai que 2.
Dans les communes qui ont entre 100 et 500 habitants, il faut 11 personnes au conseil municipal, donc 5 ou 6 femmes. Compliqué pour Christian qui en a déjà sollicité plusieurs.
Mais leur réponse, généralement, c'est qu'elles ont peur de ne pas avoir assez de temps. Mais bon, c'est qu'un petit village, c'est pas le conseil des ministres non plus. Je sais pas pourquoi, mais les hommes, j'ai pas besoin de les chercher, ils sont venus voir. C'est eux qui sont venus d'eux-mêmes.
D'où cette loi adoptée au printemps dernier, alors que moins d'une petite commune sur 4 aujourd'hui dispose d'un conseil municipal proche de la parité. Le changement se fait dans la douleur, même si les élus finissent par trouver des candidates. Dans le nord de Lyon, dans le village de Passy...
On s'est eu au téléphone ce midi, ça y est, c'est bon, c'est validé. J'ai dit oui.
Stéphanie Dumoutier sera sur la liste de monsieur le maire, Pascal Croux, qui repart pour un tour.
Je suis dans mon cinquième mandat.
C'est lui qui est venu la chercher.
J'y avais pas pensé. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu besoin d'avoir la parité, tu m'aurais pas appelé.
Moi, alors, c'est pas la parité qui nous a fait nous orienter vers Stéphanie. Depuis presque la nuit des temps, on cherche, nous, à l'avoir sans qu'on nous l'impose.
Stéphanie, toutefois, sait très bien pourquoi elle ne s'était pas engagée jusque-là.
Moi, je me revois, bon, mes enfants, ils ont 20 et bientôt 24. Quand ils en avaient 4 et 7, bah, je ne l'ai pas fait. Parce que bah, c'est vrai que les journées sont bien remplies et mon mari a toujours beaucoup travaillé, plus que moi. Donc, à la maison, il y avait et mon travail, et la maison, et les devoirs, et tout, et... Bah à un moment donné, stop quoi.
Ce déséquilibre qui persiste dans les foyers entre hommes et femmes, selon Pascal, le maire empêche les petites communes de mettre en œuvre correctement cette réforme de la parité.
On est le dernier maillon de la démocratie et on nous demande de faire ce boulot-là, alors que dans notre société, ce travail devrait être fait à tous les échelons, déjà au niveau de l'éducation, de la scolarité. C'est là que le travail doit se faire, en amont, qu'on reconnaisse la place des femmes, parce qu'on a encore des vieux schémas qui ne leur laissent pas la place, ça j'en suis bien conscient.
Mais alors l'imposer ou pas ?
Dans les petites campagnes, on a un peu aussi des hommes un peu bourrus, et puis je pense que les femmes, elles sont un peu en retrait, et elles n'ont pas beaucoup de poids dans leurs paroles, donc je trouve que là, effectivement, c'est bien de dire, bah non, mais là, il faut ouvrir, il faut que les femmes viennent et qu'on entende leur voix. Est-ce qu'il faut l'imposer ? J'en sais rien, en fait.
dans l'Yonne, toujours à La Béliole, 260 habitants, un distributeur de baguettes de pain en face de la mairie.
Mais voilà, notre commerçant, il est là. Mais le pain est bon.
La 4G est arrivée dans le village il y a 15 jours. Le maire, Loïc Barret, en est bien content.
Oui.
Beaucoup moins convaincu, en revanche, par la réforme sur la parité. Il dit que ce n'est pas la priorité.
Nous avons besoin d'individus, hommes ou femmes, motivés.
Loïc en sait quelque chose. Deux de ses conseillers municipaux ont démissionné au bout de 2 ans. Puis peu à peu, 3 autres se sont évanouis dans la nature.
Ah oui, on les convoquait, je peux pas venir. Et puis après, ils ont fini par disparaître complètement. Et là, j'ai aucune nouvelle de ces personnes.
Et sur le petit nombre de personnes restant dans le conseil...
Il n'y en a que réellement 4 qui bossent pour la commune, sur une équipe de 11. Voilà.
Loïc Barret est en train de finaliser sa liste qui comportera 4 couples. Ce n'est pas fait exprès, mais c'est peut-être une façon de faire venir plus facilement des femmes au conseil municipal.
Et puis Agathe, plus inattendue encore, cette réforme a parfois des effets contre-productifs.
Oui, en Essonne, cette fois, à Puiselay-le-Marais, où la mairie partage sa cour avec l'école, cette règle de la parité se retourne contre les femmes. Car le maire, Fabien Bideau, a aujourd'hui 2 adjointes.
Bah, il va soit falloir que j'en vire une pour prendre un homme à sa place, ce qui n'est pas du tout mon choix.
La parité s'applique en effet aussi aux adjoints.
Donc mon choix s'oriente vers la création d'un 3e poste d'adjoint dans la commune pour avoir un homme au milieu des 2 femmes.
Situation déroutante, disent les 2 concernés, dont Karine Mayer, 2e adjointe.
C'est très bien cette parité, mais en fait là ça va être en notre défaveur. Faudrait laisser la place à un homme. Notre fonction nous convient bien comme elle est, quoi.
La commune de moins de 300 habitants n'a pas réellement besoin d'un nouvel adjoint, d'autant que ça signifie une 3e indemnité à prévoir, donc des charges en plus.
Merci beaucoup Agathe Mahué pour le choix de France Info. On le rappelle, c'est municipal. Ce sera le 15 et le 22 mars prochain. Je croise aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. C'est ce que lançait lors de ses derniers vœux au Français François Mitterrand. Mort il y a 30 ans, jour pour jour, un 8 janvier 96. Que reste-t-il de son passage de 14 ans à la tête de l'État? Ilia Bergel, vous avez posé la question à des socialistes historiques.
Je n'en sais rien. Pourtant, j'ai été le premier collaborateur de François Mitterrand.
Laurent Fabius, emblématique Premier ministre de François Mitterrand. Pour lui, le mitterrandisme, c'est avant tout...
l'alternance. Voilà. Pendant des décennies, on pensait que la gauche ne pouvait pas arriver au pouvoir.
Définir le mitterrandisme, impossible également pour Michel Sapin, un autre compagnon de route historique du premier président socialiste de la Ve République.
Le mitterrandisme n'est pas quelque chose de définissable, n'est pas une doctrine. Le mitterrandisme, c'est d'abord une habileté politique.
5, 4,
c'est d'abord
3,
un art 2, de conquérir 1. Le pouvoir.
François Mitterrand est élu président de la République.
10 mai 1981, les attentes sont alors énormes, raconte l'actuel patron des socialistes, Olivier Faure.
Celui qui avait promis de changer la vie était arrivé au pouvoir et c'était Barbara qui chantait dans son concert à Pantin, un homme, une rose à la main, ouvert un autre chemin. C'était vraiment ce que les gens entendaient, pensaient.
Quelque chose a changé. L'air semble plus léger.
Et le bilan des avancées sociales est à la hauteur, estime Olivier Faure, à commencer par l'abolition de la peine de mort, mais pas que.
La dépénalisation de l'homosexualité, tout ce qui relevait des droits syndicaux et des droits sociaux dans l'entreprise, la 5e semaine de congés payés, c'est les 39 heures.
L'euphorie sociale connaît un coup d'arrêt avec le tournant de la rigueur de 1983, mais François Mitterrand laisse surtout un héritage diplomatique très actuel, estime Laurent Fabius.
Les grandes intuitions de Mitterrand, beaucoup sont parfaitement fondées. Quand on parle, par exemple, de la diplomatie française, on parle souvent de gaullo-mitterrandisme.
Le gaullo-mitterrandisme, explication du député PS Arthur Delaporte, agrégé d'histoire et spécialiste de François Mitterrand.
Un non-alignement sur une posture atlantiste. Donc oui, c'est l'idée que la France est indépendante, qu'elle a une voix à porter. Aujourd'hui, si l'Europe est telle qu'elle est, c'est parce que François Mitterrand a eu la conviction qu'il fallait emmener la France, l'Allemagne, dans un renforcement de la construction européenne.
François Mitterrand, d'abord pétainiste puis résistant, reste toute sa vie profondément marqué par la Seconde Guerre mondiale. Il lance cette mise en garde en 1995 au Parlement européen.
Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé. Cela peut être notre avenir.
Dans un livre sur François Mitterrand, son ancien ministre Jean Glavany raconte un échange entre le socialiste et le président américain George Bush. 1991, sommet de l'OTAN à Rome. Le chef de l'État français parle de l'Ukraine qui devient indépendante et prophétise alors la future guerre est là.
Merci Elia Bergel à noter cette cérémonie ce matin à 10h30 à Jarnac, la ville natale de François Mitterrand. C'est là aussi qu'il est enterré, enterré depuis 30 ans maintenant. Merci beaucoup. Un casting en or pour le gala des pièces jaunes. Ce sera dans la playlist de Maureen Svignard qui arrive après l'actu écho avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire. Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Actu éco en trois titres, on commence Emmanuel avec le tourisme français qui progresse modérément, tiré essentiellement par le luxe.
Oui, une croissance en demi-teinte l'année dernière selon les chiffres communiqués par l'Alliance France Tourisme. La France, qui reste la première destination mondiale des touristes internationaux, a vu donc son revenu par chambre progresser d'1,3%. Progression certes, mais moindre que les 1,6% enregistrés en 2024. La hausse s'est tirée de plus en plus par les prestations haut de gamme et le luxe, plus 5,6% pour le revenu moyen par chambre dans cette branche. Les Américains reviennent et la demande asiatique se développe.
Le marché des motos et des scooters est à la peine en France.
Oui, selon l'observatoire Solidata, 2025 s'est soldé par un recul proche de 20% des ventes des cyclomoteurs et motos de première main. À titre de comparaison, le marché automobile, lui, a reculé dans le même temps de 5% l'an dernier. 227 000 2 et 3 roues motorisées ont été immatriculé. Le segment des 50 cm3 a lui plongé de 28% à seulement 47 000 unités vendues.
Les marchés financiers mondiaux réagissent aux chiffres de l'emploi publiés aux États-Unis.
Les bourses de Paris, Londres, Milan et Madrid ont en effet perdu de 0,4 à 0,9%. Idem pour Wall Street qui a cédé près de 1% hier soir. Des marchés dubitatifs après la publication des chiffres des créations d'emplois en décembre. 41 000 postes ont vu le jour le mois dernier aux États-Unis. C'est moins qu'attendu. Le nombre d'offres d'emploi est au plus bas depuis 2024, signe d'une petite forme de l'économie outre-Atlantique.
Emmanuel Cuny au sommaire tout à l'heure de votre brief éco à 6h23.
Le groupe Verrier Arc International placé en redressement judiciaire. Nouvel épisode pour l'entreprise implantée dans les Hauts-de-France et qui est en grande difficulté financière depuis des années. Alors la procédure de redressement est désormais le seul cadre légal pour lui permettre de s'adapter, mais cela passera par des suppressions d'effectifs. Un repreneur potentiel rencontre le ministre de l'Industrie aujourd'hui pour lui présenter son projet.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h55, c'est désormais l'heure de la playlist de Maureen Suignard. Et Maureen, ce matin, vous nous parlez de ce concert XXL donné pour la bonne cause.
Cela fait plus de 35 ans que cela dure. L'opération Pièce Jaune, ça dit quelque chose à tout le monde. Opération pour lever des fonds, pour améliorer le cadre de vie des enfants et des adolescents hospitalisés. Pour ma part, cette opération, ce sont ces petites boîtes en carton qu'on pendant un mois pour glisser sa petite monnaie. Là, c'était vraiment des souvenirs d'enfance, mais l'opération Pièce Jaune, version 2026, c'est aussi ça. Un gala des pièces jaunes, 4e édition le 22 janvier prochain à l'Accor Arena de Paris avec entre autres le DJ Bob Sinclair que l'on entend. Il sera aux côtés de stars françaises et internationales par exemple. Ce chanteur qui est tout simplement celui qui a vendu le plus d'albums en France l'année dernière.
Moi je une parisienne qui traverse le feu vert.
Gims se produira une nouvelle fois pour ce gala caritatif. Le rappeur américain ASAP Rocky aussi sera de la partie. Pour ceux qui ne le situent pas, c'est Monsieur Rihanna. Il y aura aussi la star des années 2000, Christina Aguilera. Les amateurs de musique classique et de jazz pourront aussi s'y retrouver avec le violoncelliste Gauthier Capuçon, le trompettiste Ibrahim Malouf et la pianiste Katia Bouniatisvili. Mais deux groupes, William, risquent bien de faire planter les sites de réservation de billets. Deux groupes de K-pop, J-Dragon et les Stray Kids, qui étaient déjà présents en 2024.
Ah oui, c'est pas la même ambiance.
Non, changement d'ambiance. Le groupe est suivi par des millions de fans dans le monde entier. Ils ont rempli deux stades de France l'été dernier. Les places étaient arrachées et ça risque bien d'être pareil ce coup-ci. 45 000 billets sont mis en vente lundi prochain pour ce concert. Je rappelle, le 22 janvier, ça arrive très vite. Pour les milliers de personnes qui seront déçues, qui n'auront pas leur place, le concert sera quand même à retrouver sur France Télévisions en direct.
<t'->
Et puis vous avez votre téléphone portable, William ?
Ah bah oui.
Vous pouvez aussi faire des dons en ligne sur piègejaune.fr, donc si vous avez votre ordinateur devant vous aussi. Et avec votre téléphone portable, vous pouvez aussi envoyer don au 92 111 et comme ça vous faites un don de 10 euros directement.
Et puis on peut rappeler qu'aux pièces jaunes, on peut aussi donner les pièces rouges et puis les pièces de 1 euro et de 2 euros. Merci beaucoup. Ma chère Maureen Suignard, c'est l'heure de la météo.
France Info Météo avec Vérissure. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle priorité, votre sécurité. Demande de devis gratuit en moins d'une minute sur verissure.fr.
Christine Peña, avis de tempête sur le nord du pays.
Oui, exactement. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Effectivement, ce vent violent qui va s'accélérer surtout en fin de journée. On attend des rafales quand même de 90 à 100 km heure sur un bon quart nord-ouest du pays jusqu'en Île-de-France. Une vigilance va être mise en place. On vous en parle tout à l'heure. 140, 150 sur le littoral de la Manche. Et puis, nous avons toujours de la neige. Alors, sur l'est du pays, nous avons le Redoux qui tarde d'arriver. Du coup, les températures sont encore négatives. Il neige en ce moment à Nancy, du côté d'Épinal, de Luxeuil, de Belfort. Il neige à Lyon également. Attention au verglas d'ailleurs. Du côté du Lyonnais, nous avons de la neige également à Aurillac, sur le Massif central, en Provence. Il n'est pas impossible qu'il neige également, puisque les températures sont encore négatives en ce moment. Nous avons d'ailleurs moins 3 à Avignon, alors qu'à Paris, on est à peine sur le positif. Et du coup, bah, ça permet à ce que ce ne soit plus de la neige qui tombe, mais de la pluie. On a pas mal de pluie, d'ailleurs, elle se renforce sur le sud-ouest. Des vagues également, hein, qui seront assez impressionnantes, de 5 à 6 mètres sur le littoral de la Manche. Aujourd'hui, c'est très, très perturbé, ça reste très nuageux partout.
Merci beaucoup Christine Peña, justement, il est très déçu que la neige ait fondu à Paris, mais il est venu quand même, c'est Jérôme Chapuis pour 6-9.
Bonjour Jérôme. On a fait des batailles de boules de neige.
Eh oui, votre bonhomme a fondu.
William, bien sûr. Et vous revenez bien sûr tout à l'heure pour le journal de 7h, Christine Peña.